France Inter, le 18-20.
Vous vous souvenez de la première phrase de Nicolas Hulot, le jour où il a démissionné, ici même d'ailleurs, la question parlait de gros incendies de l'été, des inondations, des températures caniculaires, et est-ce que vous savez pourquoi nous ne sommes pas en état de mobilisation générale? Nicolas Hulot avait répondu non, je ne sais pas. Et on a un peu le sentiment que cette phrase, c'est un peu la messe est dite. Quand il a rendu son rapport en début de semaine dernière, le GIEC, au milieu de la catastrophe annoncée, a tout de même dit « c'est pas fini si on s'y met tout de suite ». Et la mobilisation est-elle là? Bah, comme le dit très justement Aurélien Barreau, dont la tribune sur les réseaux sociaux a passionné ces derniers jours, l'astrophysicien, qu'il est bien placé pour le savoir, nous a donc expliqué que la Terre tournera toujours autour du Soleil, évidemment, mais notre propre destruction à nous, nous ne la voyons pas ou pas tous collectivement. Bref, c'est toujours un peu compliqué. On change un peu notre manière de nous déplacer, on change un peu notre manière de nous chauffer, on change un peu notre manière de manger aussi. Mais à quelle échelle ce combat a-t-il un sens? L'argument de l'économie mondialisée, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on dit? Mon rôle à moi, c'est quoi? Et est-ce que je suis ridicule au fond si je ferme le robinet pendant que je me lave les dents à côté des 400 millions d'oiseaux disparus? Changer de modèle, ok, mais ça veut dire quoi exactement changer de modèle? Est-ce que c'est juste ne plus être toute seule dans ma voiture, jamais, par exemple, ou repenser le capitalisme? Est-ce qu'on parle de cette échelle-là? Faut-il être coercitif à un moment? Faut-il accepter de restreindre certaines de nos libertés? Qu'est-ce que nous sommes vraiment tous prêts à faire, très honnêtement, pour la planète et pour nos petits-enfants? Essayons de répondre à tout cela. Soyez les bienvenus.
Fabienne Synthèse. Le téléphone sonne.
Emmanuel, c'est vous le premier. Soyez le bienvenu au téléphone sonne. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci pour la qualité de vos émissions. Donc moi, je suis éducateur en environnement.
Vous êtes éducateur environnement? C'est quoi comme métier, éducateur environnement?
Eh bien, donc, éducateur environnement, c'est pour sensibiliser les enfants à des changements de comportement, et d'accord, pas que les enfants aussi, et les adultes. Donc, nous, à l'association où je travaille, donc on sensibilise, bien sûr, les adultes à changer leur comportement, que ce soit dans les gestes de tous les jours, donc c'est-à-dire apprendre que le caddie, c'est un bulletin de vote, hein, il faut le voir comme ça, son panier d'achat dans le commerce, hein, on peut tous faire ça, hein, on peut tous réfléchir avant d'acheter quelque chose, à comment notre produit est emballé, comment il est suremballé. On peut également aussi faire plein de choses, mettre en place un pédibus dans sa commune, fabriquer un sapin de Noël en palette, avec des palettes de bois, faire sa lessive, faire ses cosmétiques. Alors tout ça demande du temps. Et moi, la question que je pose ce soir, c'est quel est le temps que nous sommes pris tous à donner, chaque citoyen, pour sauver l'humanité? Parce que dehors, la nature, il faut bien comprendre qu'elle n'a pas besoin d'être sauvée. Les oiseaux, les insectes, ils étaient là avant nous et ils seront là après nous.
Pas tous, vraisemblablement, mais enfin bon. Emmanuel, je suis assez curieuse, à qui vous parlez en fait? C'est-à-dire les enfants, je comprends, j'imagine que vous allez dans les écoles ou les choses comme ça, mais sinon, quand vous essayez de sensibiliser les adultes, vous parlez où en fait? Votre parole, est-ce que vous nous dites, vous en parlez où? Est-ce que vous rentrez dans les entreprises? Je sais pas, ça se passe comment en fait?
Eh bien, on rentre dans les comités d'entreprise, et puis on organise des ateliers d'une durée de 3 heures en moyenne. Là, il y a un prochain atelier qui s'appelle Soins du corps. Donc, on va apprendre aux gens à fabriquer du dentifrice. On va apprendre aux gens à fabriquer une crème pour les mains et le visage. Et on va apprendre aussi à leur fabriquer un déodorant. Tout ça avec des produits de qualité, des produits bio, avec des huiles et non pas de l'eau qui est vendue dans le commerce, parce que la plupart des crèmes et les produits du commerce, c'est quand même, ça commence par aqua, vous voyez, alors que nous, on fait fabriquer des produits avec de l'huile, parce que notre peau, elle a besoin de l'huile. Et bien sûr, toutes ces questions-là, tout ce que je vous dis là ce soir, fabriquer sa lessive, fabriquer son sapin de Noël, faire du compost, mettre en place un pédibus dans sa commune, tout ça, ça demande du temps et ça participe à la réduction des gaz à effet de serre.
Merci.
Parce que quand on réfléchit avant d'acheter, eh bien, on se dit, mais à qui profite le crime? Qui on engraisse derrière?
Merci beaucoup, Emmanuel.
Une banque, oui.
Pardon, Emmanuel, de vous interrompre juste pour qu'on puisse commencer à vous répondre. En fait, mais on a bien compris. On a ce que vous faisiez surtout et ce que vous mettiez dans votre discours pour débattre ensemble jusqu'à 20h ce soir sur Inter. Pascal Canfin est là. Bonsoir.
Bonsoir.
Le directeur général de WWF France. Bonsoir, Jean-Louis Etienne.
Bonsoir.
Vous êtes le médecin explorateur qu'on connaît et l'environnement, ce qu'on a sous les pieds. Vous l'avez vu de visu, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on répond à Emmanuel? Emmanuel Pascal Canfin. D'abord, deux choses. Sur le, il parlait de temps. Il disait, oui, mais d'accord, ça prend combien de temps, tout ça? Moi, j'ai entendu, après le rapport du GIEC, qu'on avait 2 ou 3 ans, ce qui paraît incroyablement restreint, en fait. Combien on a de temps, au fond, avant qu'il n'y ait plus de retour en arrière possible?
La question est est-ce qu'on n'est pas déjà rentré dans le trop tard? C'est ce que vous disiez avec Nicolas Hulot. Donc, si on reprend l'analyse scientifique, 2 ans, c'est le temps, le dernier délai, pour que les êtres humains, dans leur ensemble, commencent à réduire les émissions de gaz à effet de serre partout dans le monde. On est arrivé à un plateau, mais on ne baisse pas. Et donc, là, c'est du très court terme, 2 ans. Ensuite, ce que dit le rapport du GIEC, c'est que le dérèglement climatique va aller 3 fois plus vite au 21e siècle qu'au 20e siècle. Et on a mis 150 ans à franchir ce premier degré de réchauffement qui produit déjà des effets considérables. On ne mettra que 50 à 60 ans, si on ne change pas, à franchir le deuxième degré. Et on mettra encore moins à franchir le troisième degré, ce qui fait qu'aujourd'hui, la trajectoire, c'est un monde de réchauffement climatique à 3 degrés avant la fin du siècle. Et vous disiez dans votre introduction, qu'est-ce qu'on est prêt à faire comme sacrifice et pour nos petits-enfants? Moi, il y a 2 choses qui m'embêtent là-dedans. C'est d'abord, c'est pas des sacrifices, et ensuite, c'est pas pour nos petits-enfants. Pourquoi c'est pas pour nos petits-enfants? Parce que c'est juste pour nous, maintenant. C'est pas pour les générations futures. Ça, c'était vrai il y a peut-être 40 ou 50 ans. Aujourd'hui, ce sont pour les générations présentes. Le deuxième élément, c'est que ce sont pas des sacrifices. En quoi respirer mieux dans une ville parce qu'il y a moins de voitures, c'est un sacrifice? En quoi faire son dentifrice, si je résume avec, je reprends ce que fait Emmanuel. Ce que fait Emmanuel.
C'est un sacrifice parce que c'est une contrainte, parce que c'est du temps,
c'est une
et qu'on vit dans
Vous avez déjà fait avec vos enfants, excusez-moi Fabienne, est-ce que vous l'avez déjà fait avec vos enfants?
Du dentifrice, jamais.
Eh ben voilà, faites-le une fois et vous verrez que, d'abord, ils adorent ça, c'est super sympa, et ensuite vous dites, mais au fond, quand j'achète un gel douche, j'achète quoi? J'achète du plastique, j'achète de l'eau, et de manière très, et du marketing, et très minoritairement, j'achète le produit qui va me nettoyer. Bah, autant acheter directement le produit, voire le faire. Et puis, ça me fait des économies. Donc, l'idée que c'est des sacrifices d'acheter un vélo électrique qui fait que c'est extrêmement facile de faire 5 à 10 kilomètres au lieu de prendre sa voiture, il faut arrêter de penser à ça en termes d'efforts, de sacrifices, de responsabilités. C'est pas vrai. On vivra autrement, mais on vivra mieux.
Jean-Louis Etienne, sur les exemples dont nous a parlé Emmanuel, et c'est vrai que je suis d'accord avec vous, Pascal Canfin, il a raison sur le fond. Enfin, évidemment, on peut faire des tas de choses nous-mêmes, et il y a beaucoup de choses qui sont meilleures pour la nature.
Je voudrais revenir sur la notion de temps.
Et moi, ce que je voudrais savoir aussi, c'est l'échelle, en fait. Qu'est-ce qu'elle dit, l'échelle d'Emmanuel, en fait?
Bien sûr. Je pense qu'effectivement, si vous parlez de la globalité du problème, on est tous impuissants par rapport à la tâche qui nous attend. Mais par contre, je trouve que ce témoignage est intéressant parce que il commence par c'est une énorme pelote où il faut trouver le bout. Hein, donc, dans sa vie, quand on commence à prendre des mesures comme ça, et je suis d'accord avec Pascal Canfin, il y a du fun à faire attention, à construire tout d'un coup un autre style de vie. Et pour revenir sur la notion de temps, je me souviens, j'avais traversé l'Antarctique en 89-90. J'avais fait une conférence, moi je parlais de ma traversée, Claude Lorius, qui est un de nos éminents glaciologues, qui est un des premiers à avoir travaillé sur l'histoire du climat, c'était en 90, avait dit, à propos du réchauffement climatique, le processus est enclenché. Je me souviens de cette phrase comme quelque chose qui a une inertie colossale. Et voyez ce que je veux dire, il y a 30 ans, le processus est enclenché. Deuxièmement, la perte de temps, ça a été qu'on a confondu, ou le grand public, on s'est planqué là derrière, on a confondu la météo et le climat. Comme vient de le rappeler Pascal Canfin, c'est 1 degré en 1 siècle. Ça ne se perçoit pas. La température moyenne s'est élevée de 1 degré en 1 siècle. On voit la différence entre l'été et l'hiver, le jour et la nuit, etc. 2 personnes le matin qui vont acheter la baguette de pain, de quoi ils parlent? Salut, ça va? T'as vu le temps qu'il fait? Les deux mamelles de la conversation, la santé et la météo. Et il suffisait qu'il fasse froid, à un moment donné on attend du chaud, et ils disent, attends, ils nous racontent des bêtises, vous voyez? Donc on a perdu énormément de temps sur ce concept-là, c'est une mesure scientifique, c'est un concept qu'aurait dû, je dirais, beaucoup plus tôt s'approprier les scientifiques d'une manière efficace comme ils le font aujourd'hui.
Et en même temps, j'ai envie de vous reposer la question telle qu'on l'a posée tout à l'heure, et telle que finalement Hulot en parlait en partant. pourquoi ? Alors oui, il y a des Emmanuel qui font du savon, il y a des tas de gens. On aura Sophie dans un instant qui, elle aussi, s'est imposée une ligne de vie qui lui convient, évidemment, et qu'elle trouve.
Elle ne l'a pas imposée, Fabienne Sadès, juste. Elle l'a choisie. Arrêtez avec ce vocabulaire en permanence coercitif, négatif, sacrificiel. Je veux dire, c'est pas ça l'écologie, c'est pas ça la lutte contre le dérèglement climatique.
Eh bien, on va poser la question à Sophie.
C'est juste du plaisir et c'est reprendre le contrôle. Et c'est fondamental de pouvoir reprendre le contrôle sur soi.
J'entends ce que vous dites. Bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Allez-y, votre prise de contrôle à vous, vous allez nous la raconter, allez-y.
Oui, alors bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, monsieur. C'est quand même un peu un sacrifice au quotidien. Moi, je fais des sacrifices, je ne pars pas en vacances, par exemple, à l'étranger depuis plusieurs années. Je refuse de prendre l'avion parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est irresponsable, en fait. Compte tenu de l'urgence climatique dans laquelle on est, moi, ça fait plusieurs années que j'ai conscience de ça. Et je me dis, mais on va droit dans le mur. Où vont les gens ? Est-ce qu'ils se rendent compte au quotidien de l'impact de ces millions de personnes qui prennent l'avion tous les jours ? Pourquoi ? Pour aller se faire bronzer ? C'est complètement irresponsable. Et ça, c'est un des comportements irresponsables, mais il y en a des dizaines, comme la surconsommation, les gens qui achètent des produits complètement inutiles, qui viennent de l'autre bout du monde, qui sont fabriqués à l'autre bout du monde, qui consomment également des fruits, des légumes, qui traversent tous les océans pour venir jusqu'à nous. On sait que c'est tous ces comportements-là qu'il faut arrêter. Donc oui, il va falloir qu'on fasse des sacrifices, faut le dire. Là, maintenant, l'urgence, elle est quand même là. Donc moi, au quotidien, c'est vrai, ça fait des années que je me prive de plein de choses, que je fais des efforts, que je coupe le robinet d'eau, même si on sait que c'est un effort dérisoire à notre petit niveau.
En même temps, vous lavez les dents.
Comment ?
En même temps que vous vous lavez les dents, c'est l'exemple qu'on a donné tout à l'heure. Voilà, on en rigolait tout à l'heure dans le bureau, mais honnêtement, ça a du sens.
Au quotidien, je fais plein d'efforts, mais je sais bien que tous ces efforts-là, ils sont dérisoires à l'échelle de chacun et des individus, parce qu'en réalité, c'est tout notre mode de vie, et c'est toute la société qu'il faut remettre à niveau, là, parce qu'on voit bien que l'urgence, elle est réelle. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que là, aujourd'hui, les politiques, ils sont complètement irresponsables, et je pense que dans quelques années, on pourra leur faire le procès de non-assistance à l'humanité en danger. Voilà. Moi, j'ai très peur pour mes enfants. Je vous le dis, j'ai très peur. Mais je trouve que c'est irresponsable, la conduite de Macron. Voilà.
Merci. Alors, en même temps, là-dessus, enfin, on ne va pas défendre qui que ce soit, mais j'imagine qu'il n'est pas tout seul, Emmanuel Macron, là-dessus, sur cette responsabilité-là.
Non, il n'y a aucun chef d'État, y compris lui, bien évidemment, n'est aujourd'hui au niveau où il faudrait être. Tout simplement aussi parce qu'aucune société n'est au niveau où il faudrait être.
Mais alors, c'est là que on revient à cette espèce de notion, je ne sais pas si c'est du sacrifice ou autre chose, mais j'entends ce que dit Sophie, sur le fond, j'imagine qu'on peut qu'être d'accord avec elle, et en même temps, où est le Big Bang ? S'il n'y a pas de Big Bang, à quoi ça sert, Sophie, en fait ? Le problème, c'est ça.
D'abord, il ne faut surtout pas opposer les échelles d'action. Parce que la meilleure façon de ne jamais rien faire, c'est de dire « Ah mais si moi je fais un truc et que le voisin ne le fait pas, de toute façon il ne se passera rien. » Si ce n'est pas l'Europe, si ce n'est pas les États-Unis. Bon, donc à ce moment-là, il faut plutôt additionner les énergies plutôt que les soustraire. Sinon, c'est perdu d'avance. Deuxième élément, oui, il y aura 5% de Sophie et d'Emmanuel qui seront prêts à dire « c'est un sacrifice ». Je pense que si on en reste à un discours sur le sacrifice, on ne dépassera jamais les 5% de Sophie et d'Emmanuel. Or, ce qu'il faut, c'est emmener la société. Et quand on emmène la société, on l'emmène vers quelque chose qui est désirable, qui nous fait envie. Parce que c'est des nouvelles technologies, parce que l'économie verte, c'est plein de ruptures et d'innovations technologiques qui font envie à plein d'ingénieurs. Et c'est formidable. C'est aussi la capacité à reprendre le contrôle sur sa consommation, à ne pas se laisser imposer un discours marketing. Ça, c'est pas un sacrifice, c'est reprendre le contrôle sur soi-même.
Mais justement, qui, peut-être que vous allez pouvoir nous aider, Jean-Louis Etienne, là-dessus, qui s'est trompé dans le discours, y compris d'ailleurs du GIEC et d'autres. Effectivement, comme vous dites, donnez-nous quelque chose de désirable. Mais ce qu'on entend aujourd'hui, c'est oui, mais ne prenez pas votre voiture parce que vous allez polluer. Du coup, celui qui doit prendre les transports, eh bien, ça devient compliqué pour lui. Voyagez moins parce que la trace carbone, etc. À quel moment on nous a pas servi ce discours désirable ? On nous a juste fait peur. Est-ce qu'on s'est pas trompé finalement dans la manière de nous parler ?
Je pense qu'il y a les deux. Les scientifiques ne font ni peur ni pas peur. Les scientifiques, ils disent, voilà, il y a un constat, et Jean-Louis Etienne le connaît par cœur. Et ensuite, ils disent, il y a des solutions. Et la bonne nouvelle qu'il faut partager aussi, c'est que les mêmes scientifiques du GIEC disent, nous avons les solutions aujourd'hui. Et moi, je passe mon temps à dire, nous avons les solutions, parce que ça fait quand même 30 ans qu'on en parle, et ça fait 30 ans qu'on cherche et qu'on a fini par trouver. On sait faire des maisons à énergie positive, on sait faire des vélos électriques performants, on sait faire des énergies renouvelables à bas coût, on sait faire de l'énergie, de l'agriculture biologique à grande échelle, on sait le faire. Donc le problème n'est pas un problème technologique, c'est un problème, un, culturel, on vient d'en parler rapidement, et c'est un problème de politique publique. Et c'est là où effectivement on peut interpeller, et ça génère aujourd'hui une vraie frustration chez moi, parce que ça fait, comme Nicolas Hulot, plusieurs générations de responsables politiques que j'interpelle, que j'essaye de convaincre, on a les solutions. Ça ne nous coûtera pas plus cher. On a en France les leaders mondiaux de l'habitat durable. Leader mondial de l'habitat durable Saint-Gobain. Leader mondial des technologies d'efficacité énergétique Schneider Electric. Ouais. Leader mondial des services d'efficacité énergétique Engie. Donc l'idée selon laquelle c'est mauvais pour l'emploi, mauvais pour la compétitivité internationale, c'est totalement ringard. Et pourtant, on ne change pas d'échelle encore, malheureusement.
Ça veut dire, Jean-Louis Etienne, qu'il faut passer une étape, quand j'entends Pascal Canfin, il faut passer l'étape politique, en fait, parce que les entreprises, certaines que vous avez citées ont compris.
Certaines sont prêtes.
Les Sophie, les Emmanuel ont compris aussi. Est-ce qu'il ne faut pas passer l'étape politique finalement? Est-ce qu'il y a moyen de passer ça?
On a une dépendance à l'énergie que l'on ignore. On branche les choses quand on arrive à la maison, on ne sait pas si ça consomme 5 watts, 50 kilowatts. 7 prises sur 10 à la maison sont d'origine nucléaire et le reste, ça vient du gaz. Heureusement en France, très très peu du charbon, et j'espère que ça va disparaître. Mais d'autres pays comme l'Allemagne, par exemple, qu'on cite tout le temps, les verts allemands, pendant longtemps, c'était la référence. Aujourd'hui, ils ont pris une décision d'arrêter, par exemple, le nucléaire, qui est une énergie non carbonée. Et ils se sont mis au charbon.
Sauf que sur leurs objectifs COP21, par exemple, ils sont comme nous, ils ne sont pas dans les clous.
Ils ne sont pas dans les clous, mais ils se sont mis au charbon, ce qui est quand même le pire ennemi du climat. Et en plus, ils exploitent de nouveau le lignite dans l'enseigne Allemagne de l'Est. Et ils achètent le charbon aux États-Unis, qui lui est passé au gaz de schiste. Donc, il faut bien voir que le problème, il est énorme. Et que c'est à l'échelle de l'ensemble des chefs d'État, au moment donné, qui doivent se décider ensemble. J'ai lu un rapport sur la perception de ce qui vient d'être fait en Allemagne. La première réaction, c'était oui, bien sûr, on a des mineurs, mais on veut conserver les emplois. Et donc, c'est cette mutation qu'il faut faire pour aller déplacer ces gens vers d'autres ressources énergétiques qui ne sont pas émettrices.
Et est-ce que c'est ça la raison, au fond, Pascal Canfin, si les politiques ne sont pas prêts, si personne n'est réellement prêt à faire ce genre de changement, de bouleversement, est-ce que c'est parce que, précisément, il n'y a pas assez d'Emmanuel, de Sophie, et que, électoralement, c'est pour l'instant pas assez porteur, donc on n'y va pas?
Il y a une partie de ça. Je rappelle quand Nicolas Sarkozy était président de la République, il avait fait des choses intéressantes au début de son mandat. On se souvient peut-être du Grenelle de l'environnement. Puis à un moment donné, il a dit l'environnement, ça commence à bien faire parce que de toute façon, ça rapporte pas, sous-entendu électoralement. Je ne sais, honnêtement, quand on est chef d'État et de gouvernement, si la seule chose qui nous fait lever le matin, c'est est-ce que ça va me rapporter dans les sondages dans la semaine qui vient.
Écoutez, honnêtement, c'est bien ce qui les fait lever le matin, non? Honnêtement, je veux pas être pessimiste.
J'espère que notre démocratie, si vous êtes vraiment convaincu de ce que vous venez de dire, à ce moment-là, on a un vrai problème démocratique. Et donc, je fais le pari.
Un peu quand même.
Peut-être naïf, mais je crois que la démocratie implique quand même qu'on y croit, que c'est pas la seule chose qui fait lever le matin les chefs d'État dans leur ensemble, c'est pas la courbe de sondage du lendemain. C'est à un moment donné une responsabilité historique. Aujourd'hui, et d'ailleurs au moment de la COP21, on a réussi, moi j'y ai contribué à l'époque, on a réussi à faire monter d'un cran le niveau de responsabilité, de conscience, mais de responsabilisation historique. Chacun disant, ok, ça fait 10 ans que je vous dis ça, mais si vous vous dites, on va trouver un deal et on a trouvé l'accord de Paris, alors que jusqu'à présent, il y avait un échec, le fameux échec de Copenhague. Donc c'est possible de faire autrement. Donc on a les solutions technologiques. On a un changement culturel majeur. Peut-être qu'il n'y a pas encore assez de Sophie et d'Emmanuel, mais dans toutes les enquêtes d'opinion, en France et dans quasiment tous les pays européens, il y a une majorité culturelle qui est prête à ce changement. C'est vrai que ça ne se transforme pas en bulletin de vote parce qu'il y a tellement de sujets que finalement, à un moment donné, pour mettre le bulletin de vote qui priorise l'environnement, il y a moins de gens. Je le regrette. Mais néanmoins, il y a une majorité culturelle.
Il y a des Emmanuel, il y a des Sophie, il y a des Alain aussi. Bonsoir Alain.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y Alain.
Moi, je suis un peu le pendant de Sophie parce que moi, j'aime bien voyager en avion, je voyage. Je suis allé en Islande l'année dernière, en Bulgarie cette année, l'année prochaine peut-être La Réunion. J'ai 59 ans, profession libérale, j'ai un certain pouvoir d'achat. On a une richesse mondiale qui augmente, même en Chine, des gens qui veulent voyager de plus en plus. Je pense que bon, par rapport à ce qui a été dit précédemment, les tubes de dentifrice, tous ces petits trucs-là, c'est bien gentil, mais c'est pas ça qui va sauver la planète, faut être réaliste. Je pense que c'est surtout au niveau de tout ce qui est transport, c'est-à-dire automobile, avion. L'avion, pour l'instant, c'est pas faire des avions électriques. Moi, je suis pas prêt, comme Sophie, à sacrifier mon plaisir et ma liberté de pouvoir aller, voilà, dans un endroit, visiter, etc., me déplacer. Est-ce que Monsieur Étienne et je sais plus
et Pascal Canfin
sont prêts à limiter, comme Sophie, leur déplacement en avion à des buts touristiques.
Alors Jean-Louis Étienne ne se déplace qu'à pied, mais bon.
J'en suis pas certain. Bah moi, écoutez, moi-même, même si je me déplace en avion, je suis malvoyant et je me déplace en vélo et j'ai jamais eu de voiture, donc. Même si je me déplace en avion, d'une autre part, je consomme moins de CO2. Mais je pense que l'homme est quand même, il faut être réaliste, on a quand même envie du plaisir, on a quand même envie de profiter de l'existence, et on n'est pas prêt à restreindre nos libertés, moi je crois que c'est clair. Et Sophie, il n'y en a pas beaucoup, moi j'admire hein, quand même quelqu'un qui dit, voilà, je voyage pas parce que si je me prive de ça... oui, mais moi je suis pas prêt. Personnellement, je suis pas prêt à restreindre certaines de mes libertés. Alors je fais attention sur d'autres choses, hein, l'eau, effectivement, tout ça. J'ai un fondement écologique, hein, mais il y a des choses que je suis pas prêt à sacrifier. Et je pense que c'est aux politiques à nous amener aujourd'hui des solutions, à nous restreindre sur certaines choses, peut-être, à limiter les déplacements. Quand on voit les paquebots qui se font, qui voyagent en Méditerranée avec 3 ou 4 000 personnes dessus, qui vont tout bousiller avec les hélices et enfin, on a vu des reportages il n'y a pas longtemps avec la télé, la Suisse et chez les gens, enfin, sur les ports, enfin, ça abîme tout. Il y a un moment, il faut arrêter, quoi. La connerie, elle est là aussi, quoi. À un moment, il va falloir nous restreindre, limiter ça, quoi. Arrêter cette connerie, quoi.
Merci, merci Alain pour votre témoignage et merci de votre honnêteté aussi, effectivement, d'être capable de dire, ouais, attendez, moi, j'ai quand même envie de continuer à prendre l'avion. Et Pascal Canfin, on le comprend, mais parce que moi aussi,
bien sûr, c'est ce que je vous disais, c'est. Les émissions de CO2 liées à l'aviation, c'est 3% de la totalité des émissions de CO2. Quand Alain dit « moi je voyage, je me déplace en vélo ou à pied, je ne sais plus, et pas en voiture, j'ai pas de voiture », il y a des tas de gens qui vont vous dire « Alain, mais moi je peux pas me passer de ma voiture ». Et vous allez dire « bah si c'est possible, la preuve c'est que moi je m'en passe ». Donc il y a des gens qui peuvent se passer de l'avion, et vous dites « moi je peux pas m'en passer », mais vous passez d'autre chose. Donc là, on est dans ce que je disais à l'instant, soit on est dans la soustraction des énergies, chacun se renvoyant la balle, la culpabilité, les responsabilités, et finalement on est sûr tous ensemble d'aller vers un monde à 3-4 degrés de réchauffement climatique et d'avoir un chaos climatique, soit on arrête d'avoir un discours culpabilisant, moralisateur, etc., et on fait ce qu'on peut faire et ce qu'on a envie de faire. C'est quand on dit les petits gestes, les fameux petits gestes, évidemment, l'exemple d'Emmanuel et du type de dentifrice ne va pas changer le monde, on est d'accord. Mais simplement, les pollutions, elles viennent d'où ? Elles viennent de nos propres petits gestes. Je veux dire, il n'y a pas un émetteur mondial qui émet 80% du CO2. Il y a l'énergie, on en a parlé, puis ensuite, c'est les transports. Les transports, c'est quoi ? Ben, c'est un bus, une voiture, un camion. Donc, ce sont aussi des petits gestes individuels qui conduisent à la situation dans laquelle on est. Et donc, si on change tous un peu ce qu'on peut faire là où on est, sans aller chercher la frontière de ce qui est impossible pour nous, et chacun met sa frontière là où il est, et en fonction de son système de valeurs, de son mode de vie, de son niveau de vie, de sa famille, mais si l'espace qui est l'espace du possible est fait par chacun d'entre nous, je peux vous dire qu'on aura un changement drastique, drastique. Et l'objectif, c'est pas de passer de 100 à 0, c'est de commencer à réduire dès maintenant de quelques pourcentages, en l'occurrence à peu près 3 à 4% par an, nos émissions de gaz à effet de serre. Et ça, si chacun occupe l'espace qu'il est prêt à faire, pour les uns c'est l'avion, pour les autres c'est la voiture, pour d'autres ce sera la viande, pour encore un autre ce sera passer aux énergies renouvelables. Chacun va le faire. Si on le fait tous ensemble, on change tout.
Jean-Louis Étienne, avant qu'on retourne au standard.
L'économie. C'est tout est là-dedans, si vous voulez. Quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe, par exemple, à l'ouest de l'Australie, où il y a un gisement de charbon géant, il y a des investisseurs qui vont y aller, et on sait que c'est une catastrophe pour le climat. Donc je dirais que chacun a presque le pouvoir, en fonction de la banque qu'il a choisie, regardez la banque. Est-ce que sa banque, elle investit, parce que c'est mondial, si vous voulez, est-ce que sa banque investi ou est partenaire d'un investissement sur ces mines de charbon, par exemple. Ça va être colossal. En plus, il prévoit d'ouvrir une passe entre deux récifs coralliens. C'est monstrueux ce qui se passe. Et donc, déjà, on a ce pouvoir de choisir une banque qui ne va pas investir sur ces choses carbonées et qui peut-être va investir sur d'autres choses. On a ce pouvoir, un pouvoir économique dans le choix de son partenaire banquier.
Et on le disait, pardon, allez-y.
Je rejoins absolument ce que vient de dire Jean-Étienne, c'est-à-dire que l'écologie et la lutte contre le dérèglement climatique, c'est un pouvoir citoyen. Et ce pouvoir citoyen, il passe par des choix personnels, on vient d'en parler, mais il passe aussi par des choix de consommation et d'interpellation. Imaginez que, je ne sais pas si c'est une banque française qui finance le charbon en Australie en l'occurrence, mais imaginez que cette banque reçoivent 50 000, 100 000, 150 000 messages disant « si vous faites ça, moi je change de banque ».
Voilà.
Je suis absolument certain qu'elle retire
son projet.
Parce qu'elle a plus à perdre.
Parce qu'elle
confond,
et permettez-moi de jouer les avocats du diable, moi je me souviens qu'on a dit des choses comme ça après des marées noires, notamment qu'il fallait arrêter de se servir dans un certain nombre de pétroliers qui étaient responsables de ces marées noires, et puis les pétroliers vont très bien. Ces entreprises vont très bien aujourd'hui.
Oui, mais ces entreprises vont très bien parce que nous sommes des consommateurs.
Ils font
du pétrole parce qu'il y a des clients. Quand il y aura des clients, il y aura de la production.
Bien sûr. Et dire, si nous-mêmes, on ne fait pas ces changements-là, on aura la société et la planète qu'on mérite. C'est-à-dire qu'on aura une planète à 3, 4, 5 degrés de réchauffement climatique. Il y a des banques, je ne pense pas que j'ai la possibilité de donner des noms là maintenant à l'antenne, mais il y a si vous voulez sortir du glyphosate, vous pouvez le faire. Le bio, c'est zéro glyphosate. Si vous voulez sortir du nucléaire, du charbon et du fuel, etc., vous pouvez le faire. Il y a des entreprises qui produisent 100% d'énergie renouvelable, vous pouvez acheter un contrat 100% vert. Si vous voulez sortir d'une banque qui finance de l'énergie sale, c'est possible. Il y a des banques qui sont 100% énergie propre. Donc, c'est possible de faire ces choix et de faire bouger le marché. Et comme on est en économie de marché capitaliste, le rapport de force que nous pouvons tous ensemble créer pour faire bouger les lignes au sein du marché, je peux vous dire que c'est fondamental. Et si vous additionnez le changement des représentations, ce que moi j'appelle la majorité culturelle, le changement des politiques publiques et le changement des pratiques de consommation, donc la pression sur les entreprises, je peux vous dire que vous enclenchez une dynamique qui est vraiment spectaculaire et qui est la seule façon de gagner la bataille, la course contre la montre et la bataille du climat.
Et pardon, je caricature évidemment, et si on veut lutter contre le nucléaire par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On éteint la lampe?
Non, si vous voulez, si vous dites moi je ne veux pas avoir d'électricité nucléaire, vous faites une chose très simple, je vais vous donner un nom si vous me permettez, vous prenez un contrat dans une société coopérative qui s'appelle Enercoop, 100% de l'électricité que vous consommez est d'énergie renouvelable, tracée, vous êtes sorti du nucléaire à titre personnel.
Et si on s'y met, oui, à titre personnel, on peut pas s'y mettre tous en même temps simplement.
Pourquoi
la main.
Ah bah oui, non, évidemment, c'est progressif puisque par construction si 100% des Français basculaient, on n'y arriverait pas. Mais si on le fait tous et qu'ils ont tous des promesses de contrats, les énergies renouvelables se développeront encore plus vite.
Bonsoir Victor.
Allô?
Ouais, Victor, on t'entend et on t'écoute, vas-y.
Oui, bonsoir. C'était pour déjà contredire l'auditeur d'avant, parce que je suis pas d'accord avec son témoignage. Nous pouvons faire tous des gestes au quotidien, sans des tout petits gestes, tous au quotidien, ce serait super pour la planète. Et sinon, j'en reviens à ma question. C'est pourquoi, moi je trouve, on parle de la COP21, COP22, et j'ai entendu parler de la COP23.
Et même 24, figure-toi.
Oui, et la COP24 même. Et je trouve que à mon échelle, je trouve qu'il n'y a rien qui n'évolue.
Toi, tu vois rien. Toi, à 11 ans, 11 ans, Victor. Hein.
Oui.
Toi, tu vois rien autour de toi. Est-ce que, je lis que tu prends les transports en commun, chez toi,
oui,
on fait du covoiturage, etc. chez toi. Est-ce que tu compostes aussi? T'habites en Ardèche, donc j'imagine que ça rend les choses plus simples que sur certains balcons. Et encore que d'ailleurs, le compost sur le balcon, ça existe et c'est pas si compliqué. À ton échelle, à toi, est-ce que par exemple tes parents, tu dois les pousser à faire des efforts ou pas?
Pas forcément, non, pas forcément. Mes parents, eux aussi, ils font des efforts et c'est plutôt Non, c'est eux qui font les efforts, j'ai pas trop à les pousser.
Eh ben, tant mieux pour toi. C'est intéressant ce qu'il dit Victor Pascal Canfin, parce que il a 11 ans, le cœur de cible, c'est Victor. Et pour plein de raisons. D'abord parce qu'il va probablement vivre jusqu'à 90 ou 100 ans, faut voir ce qu'on lui donne. Et puis parce qu'effectivement, c'est lui les solutions qui doit les trouver et qui nous poussera à y aller d'ailleurs.
Ah ben, c'est aujourd'hui les enfants, très clairement, sont ceux qui ont la prise de conscience la plus forte. Et c'est ceux qui sont les plus en risque, puisque le monde à 1,5 degré, 2 degrés, 3 degrés, c'est le leur. 3 degrés en 2100, souhaite que Victor vive jusqu'en 2100. Statistiquement, c'est ce qu'il fera. Donc, c'est évidemment le fer de lance. Mais c'est pas sur les générations futures, encore une fois. L'action, c'est maintenant, puisque la machine climatique, vous savez, c'est Jean-Louis Etienne en parlerait bien mieux que moi, mais ça met du temps, c'est comme un diesel. Ça met du temps
ne
à démarrer.
Pas diesel.
Non, mais justement, je le fais par provocation, mais ça met du temps à démarrer, et puis après, c'est efficace. Bon. Mais là, en l'occurrence, la machine climatique, elle a mis du temps à intégrer nos changements, et maintenant, elle est partie, et on est en train d'en perdre le contrôle.
Allez-y, Jean-Louis Etienne.
On a évoqué la COP24. Ouais. C'est un test intéressant, parce que
C'est en début décembre.
C'est en début décembre, et c'est en Pologne. 94% de l'électricité polonaise est faite avec des centrales au charbon. Donc c'est intéressant de voir comme un pays qui accueille la COP24 va réagir politiquement par rapport à ces demandes fortes qu'il y a de décarboniser l'énergie.
Et si je peux me permettre une remarque, on voit aujourd'hui... Ça me fait référence à la Pologne. La Pologne, c'est un gouvernement qui tend vers le nationalisme, on va dire, qui est très climato-sceptique.
Trumpiste.
Voilà, on va dire Trumpiste. Trump lui-même est climato-sceptique. Je ne sais pas s'il sera élu président au Brésil, mais enfin celui qui a gagné le premier tour de l'élection au Brésil, Trumpiste. C'est climato-sceptique qui a dit, première chose qu'il va faire, c'est qu'il démantèle toutes les règles pour protéger l'Amazonie. Il interdit les ONG, notamment le WWF. Concrètement, ça veut dire qu'on a le choix, quelque part, d'un projet de société aujourd'hui. C'est soit on fait les 1930, avec les batailles, les nations, les guerres, les frontières, soit on fait 2030, avec une régulation de la mondialisation, la lutte efficace contre le dérèglement climatique, la recherche d'une nouvelle qualité de vie, et au fond, on redonne un sens au progrès. C'est ça l'équation politique qui est fondamentale, c'est de redonner un sens au progrès dans un monde fini et aux ressources finies, mais à une intelligence humaine illimitée. Ça, pour moi, c'est pas un sacrifice. C'est le défi d'une génération, c'est le défi de la génération de Victor, c'est aussi la nôtre, et ça me fait plaisir d'essayer de le relever.
Je voudrais qu'on retourne au standard, retrouver Paul. Bonsoir, Paul.
Allô, oui.
Allez-y, Paul. Pardon de vous avoir fait patienter si longtemps.
Non, pas de problème. Excusez-moi. C'est une émission très intéressante. Je vais plomber un peu l'ambiance.
Allez-y,
parce que je pense que c'est un petit peu foutu, quoi. Je pense que c'est un petit peu foutu parce qu'on demande des sacrifices aux citoyens. Je suis enseignant. Je suis dans la société. Je suis inséré. Je discute beaucoup avec les parents d'élèves. Il y a beaucoup de gens qui sont conscients et qui font des efforts. Mais le problème, c'est que l'exemple ne vient pas d'en haut. C'est-à-dire qu'on n'a pas posé comme base première le changement de paradigme. On est sur un modèle consumériste. Tant qu'on est sur ce modèle-là, tant que les gens se prennent de la pub plein les dents, ils peuvent plus réfléchir. Je pense à Alain qui dit « ça restreint mes libertés ». Je suis d'accord avec Alain, je suis conscient des efforts qu'il y a fait, mais le problème c'est que c'est pas une restriction des libertés. C'est juste de s'inscrire différemment dans son fonctionnement d'humain sur la planète. Aurélien Barrault disait comment imaginer un modèle de croissance infini dans un monde fini. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est une histoire de logique. Le problème, c'est que à chaque fois qu'on prend des décisions au niveau politique, elles sont différées à 10 à 20 ans. Orléans, en ce moment, il y a le feu. Quand il y a le feu dans votre maison, vous n'allez pas dire on va appeler le pompier dans 20 ans. On est d'accord? Donc, en fait, il faudra vraiment définitivement arrêter ce modèle consumériste. Ça veut dire que refondre complètement les relations internationales. L'OMC, ça sert plus à rien. Ça marche plus. C'est un truc d'il y a 30 ans.
On vous suit complètement et ça vient, il y a d'autres questions dans ce sens-là, mais effectivement, c'est ce qu'on a entendu d'ailleurs de la part de Nicolas Hulot, Pascal Canfin, il faut changer notre mode de développement. Ça veut dire quoi, changer le mode de développement? Jusqu'à quel point? Faut-il changer notre modèle économique? Est-ce que c'est une histoire de capitalisme? Enfin, il a raison, Paul, ça secoue un certain nombre de questions auxquelles, au fond, on n'a pas forcément envie de répondre quand on est aujourd'hui un dirigeant politique. Peut-être qu'il est là, le drame, en fait.
La solution, elle est comportementale, donc on l'évoque.
Merci, Paul, pardon. Allez-y,
il est évident que la solution, elle est comportementale de chacun. Mais là, on parle du climat mondial, quoi, hein. Mm-hmm. Il faudrait que 7 milliards s'y mettent. C'est un petit peu compliqué. Et elle est technologique. Il ne faut pas perdre de vue que la solution, elle est technologique, c'est-à-dire offrir des moyens de se déplacer, des moyens d'avoir accès à l'énergie qui ne soit pas émetteur de CO2. C'est une grande complexité. Et donc, c'est un champ d'investissement qui est énorme en termes de gisement d'emploi. Je regardais encore, tout à l'heure, le rapport sur l'Allemagne. Leur principale préoccupation, c'était l'emploi. Mmh. C'est le souci de toutes les personnalités politiques.
Pascal Canfin, le Big Bang, est-ce qu'il dit ça aussi? Est-ce qu'à un moment, oui, on parle de modèle économique, en fait?
Alors, on pourrait faire toute l'émission uniquement là-dessus. Mmh. C'est d'abord un agenda technologique. Trouver les bonnes technologies. Et ça, honnêtement, les grandes entreprises fossiles aujourd'hui sont d'abord des entreprises publiques. Arabie Saoudite, en Russie, au Venezuela, au Brésil. L'idée selon laquelle serait forcément public bien, privé mal, honnêtement, je pense que c'est absolument pas le sujet. Quand on est un agriculteur bio et qu'on gagne un peu d'argent, moi je trouve ça formidable. Quand on est un boulanger bio et un artisan qui pose des panneaux solaires et on gagne un peu d'argent, c'est super. La question, effectivement, c'est... comment on tous, là où on est, avec nos propres logiques, et effectivement, il faut que l'exemple vienne du haut, je rejoins tout à fait l'auditeur qui a dit ça, et c'est aujourd'hui une énorme frustration dans la société. Ce que je trouve intéressant avec ce débat sur le climat, c'est que au fond, c'est le seul débat à reposer des questions fondamentales. Pourquoi on vit ensemble? Quelles sont nos priorités? Qui interpellent chacun d'entre nous? Donc c'est un débat politique au sens le plus noble du terme, et je suis ravi qu'on puisse le mener. Maintenant, il faut absolument que les responsables politiques ne continuent pas à créer cette frustration qu'on entend à l'antenne et qu'on voit partout, sur tous les territoires, et prennent la mesure de leurs responsabilités historiques.
Et voyez, il va y avoir un remaniement gouvernemental, on sait que ça prend du temps. Mais qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'avoir un ministre de l'économie qui serait... vert, justement. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir un ministre de l'industrie qui serait vert? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'on parle de la France ou de n'importe quel de nos voisins, en fait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas envie de faire ça? On n'est pas assez culotté pour faire ça, en fait.
Je pense qu'il y a deux dimensions.
Très vite, parce qu'on est déjà en retard, pardon.
Il y a la double dette. Il y a la dette financière et la dette écologique. Et au fond, pendant très longtemps, les écologistes ont dit la dette financière, la bonne gestion, etc., les finances publiques, c'est pas notre problème. Et inversement, beaucoup d'autres ont dit la finance, c'est important, la responsabilité budgétaire, mais l'écologie, c'est secondaire. Je pense qu'au fond, il faut faire les deux, et c'est la seule façon de résoudre l'équation.
Et ce sera le mot de la fin pour ce soir. En tout cas, merci encore pour vos très très nombreux appels ce soir, et portez-vous bien.